Quelle belle vue des coteaux n'est pas seulement une phrase. C'est une belle émission. Avec Vue des coteaux, Radio Coteau vous propose un autre regard sur notre territoire et sur les gens qui en font l'actualité et son histoire. Pierre et Patrick vous donnent rendez-vous avec leur invité du jour. Vue des coteaux, des rencontres, des découvertes, des passions et des confidences.
Et oui, c'est ça, Patrick, de nouvelles rencontres.
De nouvelles rencontres et de belles rencontres, souvent.
Voilà, alors, on les appelle les nouveaux maires. Pourquoi les nouveaux maires? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont, ou elles ont, été élus il y a tout juste un an, aux élections municipales de mars 2014. Ces nouveaux maires, eh bien, qui sont-ils et comment ont-ils vécu leur première année de mandat municipal? Ont-ils un premier bilan de leur action? Déjà des réalisations et de nouveaux projets? Eh bien, pour en savoir plus, Radio Coteau, bien dans son rôle de radio de proximité, n'est-ce pas Patrick? Radio Coteau ouvre donc une nouvelle série d'entretiens avec les nouveaux maires un an après. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce spécial Vue des Coteaux Hervé Lefebvre, maire de Samatan, président de la communauté des communes du Savès. Hervé Lefebvre, bonjour.
Bonjour Pierre.
Et bienvenue dans les studios de Radio Coteau. Vous êtes donc le nouveau maire de Samatan. Et si vous le voulez bien, eh bien, nous allons commencer par le commencement. Je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs.
Eh bien, écoutez, donc je suis Hervé Lefebvre, maire de Samatan, président de la communauté de communes. J'ai 49 ans, j'habite à Samatan, bien entendu. Je suis vétérinaire de formation, je suis enseignant à l'école vétérinaire de Toulouse. Et donc, j'ai évidemment un intérêt pour ma commune, pour l'associatif, ce qui m'a amené par la suite, justement, à rentrer en politique locale.
Alors, Hervé Lefebvre, vous êtes ce que l'on appelle néo-gersois. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit dans le Gers? Le hasard, la qualité de vie, l'envie de rural?
Alors un peu tout ça, je suis arrivé dans le Gers en 1997, à Ségoufiel au départ, et on habitait...
Dans la Gascogne toulousaine.
Exactement, dans la Gascogne toulousaine. Et on habitait au préalable à Tournefeuille, et mon épouse était sartoise, et donc elle était infirmière en zone rurale, et elle avait beaucoup de mal à s'adapter en fait au cadre de vie toulousain. Et donc on a décidé de partir vers la campagne, et c'est le Gers qui nous a tenté tout simplement. Simplement parce que c'était du bon côté déjà, hein, par rapport à mon lieu de travail. Et puis ensuite, il y avait ces espaces extraordinaires, ces coteaux, hein, c'est le cas d'en parler aujourd'hui, et cette qualité de vie qui nous a évidemment conquis d'emblée.
Alors racontez-nous, vous voilà donc citoyenne de Samatan. Quelle première impression avez-vous eue de votre ville? Une image, une couleur, une saveur?
Alors, j'ai eu cette impression, on va dire, de village. Vraiment, les villages de Cocagne, c'est-à-dire que ces espaces publics, cette atmosphère particulière, évidemment, ces gens qui partagent cet espace public, donc quelque chose qui était très vivant, et puis ce lien social extrêmement fort. Donc, ça, c'est vraiment les points forts qui m'ont marqué.
Donc, une vie locale très forte.
Oui.
On ne présente pas Samatan, hein, Hervé Lefebvre, surtout aux Gersois et encore moins aux Toulousains, qui en sont les visiteurs assidus. Et pourtant, il y a tant de choses à dire sur la capitale du Gras, sur cette cité commerçante, sur ce lieu culturel qui plante ses racines au cœur d'un territoire particulièrement dynamique. Alors, décrivez-nous votre vision de Samatan.
Alors,
aujourd'hui.
Samatan, c'est une ruche. C'est le meilleur moyen, je pense, de décrire notre commune. C'est une ruche, c'est-à-dire qu'il y a une vitalité extraordinaire, aussi bien par ses commerçants, ses artisans, que bien entendu par ses associations. Et presque.
Vous avez dit, je l'ai lu dans la dépêche, les associations sont le moteur de la vie.
C'est le moteur. C'est le moteur. C'est la vitalité. Et cet esprit associatif, cet esprit citoyen qui est garant du lien social, hein, au sein de notre commune, c'est vraiment la force de Samatan.
Hein. Il y a un engagement, il y a une mobilisation des Samatanais.
Alors,
autour de la vie de leur ville.
Les Samatanais se mobilisent pour la plupart des événements. On aura bientôt la foire agricole. Bon, et c'est le premier événement de la saison, hein, du redémarrage de la saison. Et je sais qu'ils seront à nouveau nombreux parce que ils aiment sortir, ils aiment se rencontrer, ils aiment se retrouver. Et quasiment, on va dire, tout au long de l'année, ils répondent présents et c'est vraiment la force de notre village.
C'est autour de la gastronomie que se nouent ces liens aussi?
Alors, à la fois la gastronomie, mais également la culture, le sport. Il suffit d'aller voir un match du LSC pour s'en rendre compte. Donc, je pense qu'il y a toutes les occasions, hein, pour toutes les occasions, et Samatané répond présent. Donc, c'est vraiment un public qui adhère, qui répond positivement et qui, en fait, renvoie du positif vers le monde associatif qui
alors,
organise.
Il y a la vie associative, mais il y a aussi le patrimoine.
Alors, on a un patrimoine gastronomique, évidemment. Lorsqu'on parle de patrimoine, c'est le foie gras, hein, qui fait partie de notre patrimoine gastronomique, hein, qui est reconnu comme faisant partie du patrimoine gastronomique. Et ça m'attend effectivement...
Qui est parfois contesté par certains.
Voilà, alors, on est effectivement dans un domaine où il y a des pros et des anti. Bon, nous, à Samatan, on est pros, évidemment, et on pense que c'est un produit qui révèle l'authenticité d'un territoire, qui sert notre agriculture, et surtout, c'est un produit, c'est le prince de la gastronomie, et c'est vraiment pour nous le fleuron hein, gastronomique de Samatan.
Et il faut voir la halle du marché tous les lundis.
Et exactement, alors on a tout au long de l'année, on a cette caractéristique d'avoir un marché au gras qui fonctionne, tout au long de l'année, et on fait partie des exceptions, hein, ce titre-là. Et c'est un marché qui est un marché à la fois professionnel mais également qui est ouvert au plus grand nombre et donc qui est vraiment très impressionnant, hein, surtout à la haute saison hein, du gras avant les fêtes de Noël.
Puis la Gascogne se met à table aussi à Samatan.
Alors, c'est un autre point, c'est-à-dire qu'on a un événement autour du foie gras, Gascogne à table, qui est un événement qui renoue aussi avec cette association entre le foie gras et la Gascogne, donc l'aspect culturel. Et cette première édition qui a fait suite au foie gras dans son palais, donc a lieu au mois de novembre. Il y aura une prochaine édition, donc évidemment en 2015, qui sera encore plus belle que l'édition 2014.
Avec un concours qui a été d'ailleurs très prisé.
Exactement, Pierre. Donc ce concours a été le premier concours départemental des producteurs donc de foie gras dans le Gers. Et c'est un concours où on a eu 38 participants, ce qui était exceptionnel, hein, c'est-à-dire quasiment la moitié des producteurs gersois qui ont répondu présent avec un jury, des jurys de qualité. Et je pense que ça a été vraiment un concours de grande tenue.
C'est une reconnaissance aussi pour le produit quelque part.
Voilà, on en avait besoin, c'est-à-dire que...
Il y avait de jeunes producteurs très motivés et qui ont été justement récompensés.
Exactement. Et puis je pense que c'est également, mettre en valeur... ces jeunes qui s'installent ou ces personnes qui au quotidien travaillent autour d'un produit, c'est vraiment leur rendant un hommage à travers ce concours et notamment à tous les participants.
On fait de l'aménagement du territoire aussi à travers ça finalement.
Alors c'est une forme d'aménagement et de promotion. Hein, du territoire, donc c'est effectivement quelque chose de très positif par rapport au public.
Alors à Samatan, la vie associative, le patrimoine et le tourisme.
Alors le tourisme, on pourrait dire le tourisme vert, puisqu'on a une base de loisirs qui est vraiment un atout. Hein. Cette base de loisirs a été complètement rénovée sous le mandat de Pierre Chaz, hein, le maire précédent. C'est vraiment un atout pour notre commune parce que c'est un véritable poumon qui bénéficie aussi bien aux habitants qu'aux touristes qui viennent pendant les vacances scolaires ou l'été. On est en train de retravailler sur l'aménagement de cette base aussi en termes d'espace, de plantation. Donc il y a un énorme travail actuellement qui est fait et puis de parcours santé, d'activité. Donc c'est vraiment pour nous très très important. Et ensuite on a tout ce qui est sport nature, donc avec le canoë sur la Save, le cyclotourisme. On a une section cyclotourisme très développée qui est vraiment un atout également pour nous. Et puis les randonnées qu'on veut développer en partenariat avec les autres communes.
Donc on peut bien manger à Samatan et ensuite se dépenser.
Oui, ou alors on veut le faire dans l'autre sens. Se dépenser d'abord et bien manger après.
Et bien manger après. Et puis Hervé Lefebvre, n'oublions pas nos amis de Ramatuel.
Alors voilà, c'est quelque chose de très spécifique à Samatan. Nous avons un jumelage avec Ramatuel.
Parce que Samatan a son ouverture sur la mer.
Finalement. Exactement, c'est-à-dire la mer, la Méditerranée, et puis une culture qui est vraiment aussi différente de la nôtre. C'est un jumelage qui est très actif, avec un comité de jumelage qui vraiment s'investit beaucoup, hein, avec donc des échanges chaque année. Cette année, on recevra les Ramatuellois au moment du pont du 1er mai. Donc le comité...
Rendez-vous autour de l'Olivier.
Alors. Exactement, rendez-vous autour de l'Olivier et puis ça sera un moment de convivialité partagée.
Quand on parle de Saint-Matan, Lombès n'est pas très loin, Hervé Lefebvre. Les deux sœurs jumelles de la Save, longtemps présentées comme rivales, dans le style un petit peu « je t'aime, moi non plus », ont-elles retrouvé aujourd'hui l'envie, le goût de travailler ensemble ?
Alors, ça a été un des thèmes de campagne, hein, des élections municipales de 2014. Que ce soit Jean-Pierre Cotte, maintenant maire de Lombès, ou moi-même, nous avions mis en avant dans notre programme le rapprochement entre les deux cités. Je pense que c'était non seulement logique, mais également indispensable. Donc, on vit ensemble. On a des clubs qui sont mutualisés déjà entre les deux
cités. Je vous ai vu réunis sur le pont qui autrefois séparait les deux villes et qui maintenant semble les réunir.
Et exactement. Et on essaie au maximum d'interagir sur des projets. Donc, on a eu le centenaire, par exemple, de la guerre de 14-18. On a travaillé ensemble. On travaille ensemble sur des projets, notamment plus important comme le casernement de pompiers, hein. Il y avait deux casernes de pompiers, deux gendarmeries. À un moment donné, il faut rationaliser et je pense
et mutualiser.
Voilà, le mot clé c'est la mutualisation et ça nous paraît vraiment essentiel aux deux municipalités.
Donc avec d'autres projets sûrement aussi.
Alors on a des projets également, les deux offices de tourisme travaillent ensemble.
Qui est logique aussi.
Qui est logique et également avec celui de
Cibor. Il y a une entité.
Exactement. Après il y a des complémentarités culturelles. Nous sommes une ville marchande. Lombès est une ville historique avec sa cathédrale, hein, qui est vraiment un joyau.
Ancienne sous-préfecture,
l'évêché. Donc il y a vraiment une complémentarité sur laquelle on doit maintenant passer notre énergie à la mettre en valeur. Voilà.
Eh bien Patrick, je crois que le moment est venu peut-être de marquer notre première pause musicale et je rappelle que c'est notre invité qui choisit sa programmation musicale et pour commencer, Hervé Lefebvre, vous avez choisi un grand chanteur, grand parmi les grands.
Et oui.
C'est donc
Michel Sardou. Exactement.
Chapeau, la vieille, elle se fait croire que c'est l'été. Au soleil, on s'en rassurait. Il paraît que la dame a la faux. C'est l'hiver qu'elle fait son boulot. C'est pas qu'elle tienne tant à la vie, mais les vieilles, ça a des manies. Ça son fauteuil et son lit, même si le monde s'arrête ici. Elle a la tête comme un placard, la vieille, et des souvenirs bien rangés, comme ses draps, ses têtes d'oreiller, son tout premier carnet de bal. Du temps où la valse, c'était mal. Un petit morceau de voile blanc. Du temps où l'on se mariait enfant. De son feu héros, une croix-guerre. De l'avant-dernière, dernière guerre. Elle a des stries sur son chapeau. La vieille, elle se fait croire que c'est l'été. Du temps, elle a 100 ans, elle a 1000 ans, elle est pliée, elle est coiffée comme un journal du temps passé. Elle a sa famille en photo, la vieille, sur le buffet ils sont en rang. Et ça sourit de toutes ses dents. Il y a les petits-enfants, des enfants, et les enfants, des petits-enfants. Il y a ceux qui viendraient bien des fois, mais qui n'ont pas d'auto pour ça. Ceux qui n'ont pas le temps, qui habitent pas là. Puis il y a les autres qui n'y pensent pas. Elle a des cerises sur son chapeau, la vieille, elle veut se faire croire que c'est l'été. Elle a des cerises sur son chapeau, la vieille, Elle se fait croire que c'est l'été.
Vous êtes bien sur Radio Coteau, c'est l'émission Vue des Coteaux et nous recevons, je vous le rappelle, Hervé Lefebvre qui est le maire de Saint-Matan et président de la communauté de communes du Savès. Hervé Lefebvre, puisque nous évoquions à l'instant la proximité géographique et la complémentarité de Saint-Matan et de Lombès, on en vient tout naturellement à ouvrir le dossier de l'intercommunalité. Hervé Lefebvre, vous présidez la communauté de communes du Savès. Cela représente combien de communes et combien d'habitants, grosso modo?
Alors ça représente 32 communes, donc qui sont réparties sur les anciens cantons de Saint-Matan et de Lombès, à peu près, et ça représente 9000, un peu moins de 9600 habitants, voilà, actuellement. Donc on est tout près du seuil des 10 000, mais on est
en... C'est ce que j'allais vous dire, vous êtes près du seuil des 10 000.
Oui, oui.
Bon, mais ça viendra.
Ça viendra, parce qu'on a 2% de croissance démographique à peu près par an, en moyenne, donc on y arrivera prochainement.
Quels sont les axes forts de votre action à la communauté de communes?
Alors, on a des compétences, on va dire, obligatoires que tout le monde connaît, et puisqu'elles sont classiques pour les communautés de communes, aménagement d'espace, économie, et après, on a des compétences optionnelles qui sont relativement lourdes, puisqu'on a la voirie, donc la voirie hors centre-bourg, c'est-à-dire celle qui est en dehors des panneaux d'entrée de village. On a également tout ce qui est petite enfance, école, le périscolaire, l'extrascolaire et tout ce qui est action jeune autour des publics préados et adolescents. On a également le numérique, donc compétence qui est transférée vers le syndicat Gerson Numérique. Et on a également la compétence fourrière à travers également le syndicat des Trois-Vallées.
Voilà. L'école, c'est très important, j'imagine, avec une population qui grandit et qui est relativement jeune aussi, je crois.
Alors, on a pour donner un ordre d'idée, on a à peu près 800 enfants scolarisés dans nos écoles publiques. Donc, il y a également une école privée sur le territoire. On a 12 écoles publiques qui relèvent de la compétence communautaire. Et ça va d'écoles de village à une classe, à des écoles à 7 classes.
Vous parlez des ados aussi, l'action en faveur des ados.
Oui, alors là, on a...
C'est un besoin qui s'est manifesté.
C'est un besoin très important. On considère qu'on a à peu près 1000 adolescents, 1000 jeunes entre 11 et 18 ans sur le territoire. Cette action est menée en partenariat à travers le contrat enfance jeunesse avec la MJC de Mont-Blanc, qui est vraiment pour nous le partenaire clé.
Et qui MJC historique à Mont-Blanc. Très active.
Voilà. MJC.
Le MJC, c'est accolé à Mont-Blanc. Hein.
Exactement.
Voilà, quand on parle de Mont-Blanc, on pense à la MJC.
Exactement. Ouais. Puis une MJC qui est vraiment présente, qui fait un travail admirable, qui gère également une partie, on va dire, pour l'enfance, mais qui est pour nous un partenaire essentiel dans le développement de l'action jeune.
Dans la société d'aujourd'hui, l'action en faveur des jeunes, c'est essentiel.
C'est capital.
Même en milieu rural, si je peux dire.
Et peut-être surtout en milieu rural. Il faut imaginer, effectivement, nous n'avons pas les transports qui existent en milieu urbain. On a des activités, heureusement, sur notre territoire à travers ces associations qui existent. Mais c'est quand même quelque chose qui est plus compliqué pour les jeunes, je pense, même en milieu rural, comparé au milieu urbain.
L'objectif essentiel, c'est sûrement le développement harmonieux et équilibré du territoire sur une communauté de communes.
Alors, c'est effectivement le cas. Souvent, on a tendance à opposer les centres-bourgs aux villages périphériques. Il faut savoir que dans le développement économique d'un territoire, pour vous donner à peu près l'ordre d'idée, on a 40% des habitants qui sont situés sur les deux centres-bourgs et 60% donc dans les villages. Et ces habitants des villages font vivre les centres-bourgs. Hein. Il y a beaucoup de dirigeants associatifs sur Lombès et Saint-Matan qui viennent donc des villages périphériques. Et les associations ont leurs propres associations, les villages ont leurs propres associations aussi. Par contre, il faut savoir également au niveau commercial que les habitants viennent faire leurs courses sur les centres-bourgs. Donc il y a vraiment une interaction et on ne peut pas concevoir un aménagement dissocié entre les centres-bourgs et les villages.
L'un des mots identifiés aujourd'hui de notre ruralité, c'est l'isolement. Donc il faut lutter contre l'isolement. C'est la mission des élus de proximité que vous êtes, des nouveaux élus de proximité finalement que vous êtes.
Oui, je crois réellement dans le rôle de proximité des maires. Pour nous, c'est des sentinelles très importantes au niveau des territoires, dans tous les villages. Ils font un travail au quotidien, ils connaissent leurs administrés, ils connaissent leurs difficultés. Et au sein de la communauté de communes, ils rapportent en tant que conseillers communautaires vraiment leur expérience du terrain qui nous aide à avancer collectivement.
Hervé Lefebvre, vous vous situez dans la zone d'influence de la sphère toulousaine, vous en êtes vous-même un pur produit finalement. Comment percevez-vous cette attractivité toulousaine?
Alors je l'aperçois. Alors on a une chance sur notre territoire. On est effectivement juste à côté. Donc l'atout, c'est notre croissance démographique, ce qui n'est pas le cas de toutes les parties du Gers, malheureusement. Donc ça nous aide à progresser sur le plan démographique. Le risque, c'est l'absorption. Donc on veut garder notre spécificité, notre ruralité, et on veut pas dans 20 ans nous retrouver comme Fonsorbe aujourd'hui par exemple. Donc il faut trouver un équilibre, et je pense que les habitants sont extrêmement attachés à cette notion de territoire et de Gers.
Accueillir de nouveaux habitants tout en gardant les espaces.
Voilà, il faut un peuplement maîtrisé, on va dire, et je pense que dans les projets d'aménagement futurs, à travers le schéma de cohérence territoriale, ça sera vraiment un sujet à débat important entre les élus, mais je pense qu'il y aura une convergence.
Alors là, on est devant un grand et magnifique chantier, l'aménagement du territoire, les SCOT, etc. C'est une politique à construire.
Alors je pense que c'est ce qu'il y a de plus passionnant, puisqu'on ne construit pas par définition sur la durée d'un mandat, on construit à 20 ans. Je pense que ça change complètement la donne au niveau des élus, puisque souvent on vivait le mandat, on travaillait sur le mandat. Là, on est obligé d'avoir une projection à 20 ans de
l'évolution. Sortir la tête du guidon, là.
Exactement.
Alors, l'intercommunalité, c'est, on l'a dit, une idée neuve qui est en train de se construire. Elle est en fait ce que l'on en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous, élus? Une nouvelle façon de travailler avec d'autres élus pour le bien commun du territoire?
Alors, c'est ça. Alors là, je peux comparer entre le rôle de maire et le rôle d'élu communautaire. L'élu communautaire travaille, j'ai envie de dire, avec une vision macro. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est effectivement des problématiques générales au niveau d'un territoire, et on travaille avec d'autres élus qui sont tous des maires ou des adjoints. Enfin, une dynamique
et de toute tendance.
Et de toute tendance.
C'est-à-dire ça, c'est un grand progrès.
Il y a une collégialité.
Ensemble, voilà.
Il y a une collégialité et qui conduit aussi à une amitié entre élus pour justement ensemble faire avancer un territoire. Là-dessus, je pense que la communauté de communes du Savès a cette force de prendre des décisions le plus souvent à l'unanimité. Pourquoi ? Parce que il y a cette volonté collective de travailler ensemble. Il peut pas y avoir de clivage. C'est extrêmement difficile de cliver.
On est sur le même bateau.
Tout le monde est interdépendant. Voilà, on vit ensemble. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important et qui nous permet d'avoir justement une image, une qualité aussi relationnelle avec les autres interlocuteurs, qui est beaucoup plus forte même que lorsqu'on est simple maire.
Donc c'est dans la concertation que tout cela se fait.
Dans la concertation, l'équité. Il faut viser l'équité de nos administrés. Sur des problématiques d'aménagement numérique, la communauté de communes du Savès a décidé de repêcher des sous-répartiteurs pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès au numérique. Il était hors de question pour nous que même dans un village, aussi petit soit-il, certains administrés soient pénalisés.
Le numérique, c'est un des atouts majeurs aujourd'hui.
Essentiel.
On ne perçoit pas forcément l'importance, alors que c'est quand même essentiel et fondamental.
Voilà, on a besoin de se désenclaver dans le Gers, donc on a connu les problèmes de route.
Ça va mieux,
mais le numérique, on ne peut pas passer à côté. C'est indispensable pour le milieu de la santé, indispensable pour les écoles, indispensable pour les entreprises, et ne pas avoir le numérique très haut débit demain, à 5 ans, ça serait aussi pénalisant que de ne pas avoir le téléphone il y a 15 ans. Voilà.
Alors la communauté de communes du Savès travaille même beaucoup, vous travaillez tous ensemble, en équipe, mais est-ce que la population perçoit ce travail? Il faut communiquer aussi. Alors, comment ça se passe? Il faut faire savoir ce que l'on fait.
Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, on a mis l'accent, ce début de mandat, sur les outils de communication. C'est-à-dire que la priorité, ça a été de dire, on est en début de mandat, donc il faut qu'on arrive à mettre en place des outils de communication. Le problème de la communication, c'est surtout la mise à jour. Souvent on lance un site et puis après au bout d'un an on se dit
il faut le faire vivre.
Donc on a fait le choix de travailler avec des professionnels. On se rendait compte depuis 2 ans que c'était compliqué de trouver les ressources en interne, parce que c'est un véritable métier. Donc on a décidé au mois de septembre de mettre en place un magazine d'information communautaire, et on le voulait vraiment comme quelque chose de de très journalistique, au contraire, hein, qui soit pas rébarbatif ou trop administratif, donc qui présente la vitalité du territoire dans chaque numéro, deux villages avec ses spécificités. Et on a couplé ce magazine également un site internet va donner des informations beaucoup plus réactives, des instantanées. Ce site internet également présentera des bandes son, des enregistrements dans des villages, des ambiances, des atmosphères,
ça, c'est
des
nouveau.
Événements. Ah, c'est complètement nouveau, c'est innovant. Donc,
on écoute nos villages.
Exactement, on écoute nos villages et puis on transmet quelque chose. Hein, le son est quelque chose d'aussi important.
Même le son des cloches.
Même le son des cloches, voilà. Même le
j'espère
son
qu'on les fera écouter à nos auditeurs, hein, Patrick. Hein, ouais, ça sera une première.
Exactement, exactement.
Donc communiquer au plus près avec des outils modernes.
Avec des outils modernes et puis surtout, je pense que le devoir d'informer, c'est une obligation en termes de démocratie participative. Et la communauté de communes est souvent une strate qui est mal perçue, on va dire, ou mal connue. C'est pas forcément négatif, parce que tout simplement il y a un défaut de communication.
Oui, donc à elle de se faire connaître. C'est ce que vous faites.
Tout à fait.
Alors, puisqu'on évoque l'intercommunalité, Hervé Lefebvre, l'actualité évidemment tourne autour de la réforme territoriale, hein, qui est quand même un dossier extrêmement important au plan national, mais qui a des répercussions évidemment locales très importantes. Alors, comment vous la voyez, cette réforme territoriale, ce regroupement des cantons, le mariage des régions Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, par exemple? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, bon, je suis comme beaucoup de Gersois, j'ai été un petit peu interpellé par le rapprochement avec la région Languedoc-Roussillon, parce que c'est vrai qu'on est plus porté aussi côté Gascogne, donc vers l'Aquitaine, les Landes, et donc. Bon, après, je pense qu'il y a des atouts hein, dans la...
Bah, ça va vous rapprocher de Ramatuelle.
Ça nous rapproche de Ramatuelle, ça nous rapproche de la Méditerranée, qui est un bassin de développement économique. Ça nous rapproche aussi, évidemment, de Barcelone, qui est une cité importante hein, pour Toulouse et son développement. Donc, je pense qu'il y a des atouts économiques. Après, au niveau des regroupements de cantons, ce qu'il faut voir...
Une petite question sur le rapprochement des régions. Bon, vous souhaitez que Toulouse soit la capitale de cette nouvelle région, j'imagine.
Ah ben, bien entendu. Bien entendu, on est chauvin quand même. Donc on espère, et ça serait même une certaine forme de logique, mais ce qui veut dire qu'il faut trouver un équilibre hein, entre les deux régions. Et ensuite, par rapport aux cantons, il faut pas voir que la fusion des cantons, il faut voir la représentativité. Globalement, on est sur des cantons qui font à peu près 11 000 habitants, les nouveaux cantons. Par contre, on aura effectivement un homme, une femme qui représenteront ces cantons, et on aura plus de conseillers généraux, on en aura 34, hein, au lieu des 31 précédents. Donc, on aura également des hommes et des femmes de terrain.
Il y aura du maillage.
Il y aura du maillage. Et ça, c'est relativement important. Je pense qu'on peut voir l'aspect positif à travers cette réforme aussi au niveau cantonal.
Et alors, la commune de base, au milieu de ce bouleversement territorial, comment voyez-vous son avenir ? Elle va rester, la commune ?
Alors, vous savez, dans les débats actuels autour de la réforme territoriale, on se demande qui est déshabillé par qui, hein, entre la région, les départements, les intercommunalités et la commune. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de transferts de compétences vers l'intercommunalité. On parle de l'eau et de l'assainissement hein, en 2018. On parle effectivement de la gestion des milieux aquatiques, de la prévention des inondations. Je pense que la commune restera parce que c'est un des maillons essentiels, notamment en zone rurale, de proximité. On a du mal à imaginer même 10 000 habitants répartis sur 40 km de distance en zone montagneuse ou en zone rurale. Donc je pense que cette proximité est extrêmement utile et même apporte une économie, hein, paradoxalement, en termes de services publics. Hein. Donc je pense que la commune a vraiment tout son intérêt. Après, est-ce qu'une petite commune peut subsister dans la pression administrative actuelle ? Ça devient de plus en plus dur hein, pour des maires ruraux de répondre à des documents récurrents avec des réformes administratives. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc il faut à un moment donné mutualiser, il faut travailler ensemble. Et je pense que l'intercommunalité offrira, ou le département, des services d'ingénierie, des supports, des fonctions supports qui seront utiles à l'exercice des fonctions de maire dans des petits villages.
Finalement, les collectivités qui vont évoluer le plus, ce sont les communes et les départements, finalement, dans leur mission.
Alors, la commune gardera la clause de compétence générale. Donc, c'est quand même le point parfois qu'oublient des maires ou des administrés. C'est-à-dire que la commune sera la seule entité à garder la clause de compétence générale. Là-dessus, cette clause de compétence générale, évidemment, permet au maire d'intervenir dans tous les domaines. Et c'est quelque chose, je pense, qui laisse un espace de liberté et d'expression démocratique relativement important. Après, effectivement, les départements, je pense que c'est une chance de les avoir. Donc, à un moment donné, ils étaient menacés. Je pense qu'on aura besoin de cette unité. On se voit mal dans une super région, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, se retrouver seul avec quelques délégués gersois à gérer notre département. On gère entre nous et après on sera représenté, bien entendu, au sein de la future région.
Alors Hervé Lefebvre, vous avez parlé de liberté d'expression démocratique. Eh bien, je crois que ça nous rapproche de l'interprète que nous allons écouter maintenant. Ça nous rapproche aussi de Toulouse. Ça nous rapproche de Claude Nougaro.
Oui.
Et donc, nous allons écouter
Juliette.
Juliette. Ah, Juliette Patrick. Juliette n'est pas tout à fait prête, mais ça ne va pas tarder. La voici. La voici, la voici. Ça commence à tourner. Et non. Non, non. Donc, la crêpe est à l'envers, Patrick. La crêpe a été placée à l'envers. Non. Bon, mais on va écouter Juliette, peut-être. Ah, ça y est. Tout de suite, tout de suite.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière, la rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent. Ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire, j'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Que j'oublierai si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
êtes bien sur Radio Coteau, fréquence 104.5 et 97.7. C'est l'émission Vue des Coteaux, spéciale Nouveau Maire. Et nous recevons, je vous le rappelle, Hervé Lefebvre, qui est le maire de Samatan et président de la communauté de communes du Savès. Alors Hervé Lefebvre, vous êtes maire depuis un an. Est-ce qu'on peut dresser un premier bilan de votre première année de mandat à la mairie de Samatan? Quelles ont été vos priorités avec l'équipe municipale?
Alors c'était une toute nouvelle équipe, donc les adjoints que j'ai avec moi n'avaient jamais été adjoints précédemment, donc il y a une prise de fonction.
Rappelons que vous avez succédé donc à Pierre Chaz.
Oui, j'ai succédé à Pierre Chaz et l'équipe était renouvelée pour l'essentiel, donc la prise de fonction était vraiment une priorité, c'est-à-dire qu'il fallait que chacun trouve ses marques. C'est pas évident d'arriver dans un système qui marche, qui a des habitudes. Je pense que l'équipe des adjoints est une équipe très très liée, très performante. Donc il y a eu 4-5 mois d'adaptation. C'est une année électorale, c'est toujours une année un peu particulière puisque le budget est préparé généralement par l'équipe avant. On met pas en place le budget, on a très peu de temps pour le faire. Et donc la véritable année va commencer en 2015. Par contre, dès 2014, on a travaillé autour de problématiques, donc comme le sport par exemple, avec un nouveau parcours santé qui a été mis en place autour de la base de loisirs. Donc qui est quelque chose qui va renouveler un petit peu l'offre pour les pratiquants. On a travaillé également sur le concours des villes et villages fleuris, donc avec l'office de tourisme départemental. On a travaillé sur un village, un produit, avec la chambre de commerce et d'industrie, pour avoir donc ce label, un village et un produit, et opération extrêmement intéressante, puisque pour Samatan c'est le foie gras. Donc on a travaillé également sur des projets donc autour de l'accessibilité, qui seront mis en œuvre dès 2015, donc projet d'accessibilité du bureau de poste, donc c'est prévu à l'automne, accessibilité et rénovation complète du bureau de poste de Samatan, mais également une partie de l'accessibilité devant les commerces en cœur de village, qui sera devant la place des Cordeliers, également un des gros chantiers de l'année. Voilà quelques exemples et je pourrais en citer d'autres.
Alors il faut appuyer sur le bouton de l'attractivité, quoi, hein, c'est ça.
Exactement, c'est-à-dire que
l'accessibilité... Et du confort de vie, quoi.
Confort de vie et puis permettre au plus grand nombre de pouvoir circuler. L'accessibilité peut être vue comme une contrainte. Moi, je le vois au contraire comme un atout pour les personnes à mobilité réduite. Pouvoir se déplacer, c'est également un atout pour les commerçants, c'est un atout pour le lien social. Ces personnes peuvent sortir, peuvent accéder au commerce.
Ville pour tous.
La ville pour tous, exactement, Pierre.
Et des projets, j'imagine, puisque alors, 2015 va être après le tour de chauffe de 2014. Alors là, 2015, on entre.
Voilà. Alors là, on est sur des projets,
dans le dur, si je peux dire.
Des projets, des projets relativement importants. Donc il y a ce projet autour du casernement des sapeurs-pompiers. J'en ai parlé tout à l'heure, qui est un projet qui va être instruit certainement. Ça sera pas réalisé en 2015, mais qui va être instruit. On a un projet également de réaménagement de l'aile A de la maison de retraite de Samatan. Donc projet qui sera important parce qu'on envisage de travailler éventuellement avec une maison de santé, des professionnels qui pourraient s'installer. Donc,
qui n'existe pas encore.
Qui n'existe pas encore, voilà. Qui est un projet qui est mené par des professionnels en relation également avec la commune de Lombès.
C'est un moyen de retenir aussi les médecins.
C'est très important. Et puis un moyen d'offrir une plateforme, de plateforme, on va dire, médico-sociale, puisqu'il y aura les services du groupement de coopération sociale et médico-sociale, les services du conseil général, tout cela au même endroit. Donc c'est un énorme projet pour nous. Des projets autour de la base de loisirs aussi, donc projets d'aménagement, de végétaux, etc. Des projets avec un sentier de randonnée, donc le PR26 qui associe la mairie de Gaujac, la mairie de Montamat, la mairie de Lombès, la mairie de Saint-Soulan, la mairie de Samatan. Donc un projet.
Il y a de beaux villages là à découvrir.
Magnifique. Et puis un projet de un sentier. C'est plusieurs communes, donc c'est à nouveau du lien à travers cette découverte de notre territoire.
Et puis
donc,
les gens marchent ensemble et parlent ensemble. C'est une nouvelle forme de convivialité.
Exactement, et tout le monde peut le faire à son rythme,
ouais.
Ce qui est très agréable aussi.
Et découvrir des endroits à côté desquels on passe tous les jours et sans s'en rendre compte.
Complètement insolite. C'est une vision de l'intérieur du territoire.
Très bien. Alors. Revenons plus particulièrement à vous, si vous le voulez bien, Hervé Lefebvre, à une approche, disons, plus personnelle de votre mandat et de votre mission à la tête de la commune de Samatan. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de l'action publique, du service des autres?
Alors je crois que ça vient à travers l'engagement associatif. Donc lorsque je suis arrivé à Samatan, je me suis impliqué dans une association qui était l'association de la cantine de l'école Yves Chaz. Donc on servait 250 repas tous les midis. On était des bénévoles. On a fait tourner cette cantine. J'ai été dans cette association pendant 8 ans. Je me suis également impliqué dans un club sportif, un club de judo. Et je pense que cet engagement de bénévole, c'est quelque chose qui est une antichambre, on va dire, en termes d'engagement dans l'action politique. Je crois qu'on apprend à servir les autres avec ses convictions, avec son intérêt, sans compter son temps. Pour être élu, il faut pas compter, hein. Il faut savoir donner sans compter. Et je pense que c'est vraiment cette expérience de l'associatif qui a fait que je me suis engagé dans la vie politique.
Au fond de vous-même, vous aviez quand même cette envie finalement.
J'avais cette envie et puis bon, j'ai eu la chance.
Parce que votre environnement vous y poussait aussi peut-être.
Oui, et puis j'ai envie de dire, j'ai eu la chance de rencontrer, en l'occurrence Pierre Chaz, hein, qui est pour moi, était un maire qui m'a transmis beaucoup de valeurs. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans cet engagement. Lorsqu'on arrive, qu'on est nouvel élu, on a l'impression d'être très loin et de pas forcément être compétent. C'est pas simple d'être nouvel élu. Et finalement, petit à petit, on réalise que il faut, au contraire, de la simplicité. Il faut de la proximité. Il faut trouver des solutions. On est là pour trouver des solutions face à des problèmes. Voilà.
Au bout d'un an d'exercice, vous avez toujours le même enthousiasme ?
Un enthousiasme même croissant, parce que on s'approprie les dossiers. Alors l'élu doit toujours garder une distance avec un dossier. Hein. Le maire, c'est pas lui qui est détenteur des dossiers, c'est le conseil municipal et les adjoints, il en est de même. Donc je pense par contre que le travail de construire du projet, cette culture projet, c'est vraiment la ligne directrice qu'on doit avoir en tant qu'élu. Il faut toujours être en avance en termes de projet. Donc il faut analyser l'instantané, mais toujours être dans la construction.
Hervé Lefebvre, Laurent Fabius comparait un jour votre prédécesseur à la mairie, René d'Aubriac, à un grand couturier passant le plus clair de son temps à coudre et recoudre le tissu social de sa collectivité. C'est aussi comme cela que vous concevez le rôle du maire ?
Alors, je pense que l'action sociale est au cœur de la préoccupation. C'est-à-dire que les gens vont choisir un maire tout simplement parce qu'ils veulent quelqu'un d'humain, quelqu'un qui leur apportera un secours en cas de difficulté. Donc devant toutes les autres compétences municipales, je pense que c'est vraiment le point d'orgue. J'ai un contact hebdomadaire avec mes administrés, j'ai une permanence tous les lundis matin, et la plupart des personnes qui viennent me voir, c'est pour des préoccupations d'ordre social.
Qui vous demandent à vos administrés quand vous les rencontrez ?
Eh bien, c'est...
Quelles sont leurs préoccupations les plus courantes ?
Je peux vous donner des exemples. Ça peut être des jeunes qui sont déscolarisés. Voilà, j'ai eu 4 exemples déjà sur un village comme Samatan, des jeunes qui n'ont pas le bac, qui sont pas repris dans leur lycée d'origine, et des parents qui travaillent, qui n'ont pas le temps de s'en occuper dans la journée et qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, face à ce type de situation, c'est à nous de réfléchir, de contacter la mission locale, parfois de contacter les assistantes sociales. Ça peut être des personnes qui se retrouvent en détresse par rapport, par exemple, à une succession, des difficultés. On intervient en relation avec aussi des notaires. On essaie d'avoir un échange. Ça peut être des personnes qui viennent pour des situations, on va dire, d'aide à domicile, de portage de repas. On a des gens qui sont parfois perdus à travers les démarches administratives. On sent qu'il y a un besoin. On est à l'heure d'Internet, on en parlait tout à l'heure, mais on n'a jamais eu, je pense, autant de ruptures, on va dire, entre le besoin des personnes et l'accessibilité au droit pour tous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de combler ce vide. Donc c'est pour ça que nous, on a l'idée aussi de mettre en place une plateforme de services avec une prise en charge qui serait beaucoup plus intégrée pour accompagner les gens dans les démarches. Ça peut être des gens qui, par exemple, ont un statut d'handicapés et qui perdent ce statut d'handicapé tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de faire les démarches. Donc voilà, ça fait partie des choses. Puis après, évidemment, on a des gens qui veulent s'installer, il y a des points très positifs, hein, mais il n'y a pas de de petits problèmes pour chaque administré qui vient me voir. Ça prend une place très importante, évidemment.
Selon vous, le maire est-il homme de devoir, homme de pouvoir ou homme de devoir sans pouvoir?
Alors, je dirais, c'est le maire a du pouvoir. Hein, je dis pas que c'est un homme de pouvoir, je dis le maire a du pouvoir. On peut influencer le cours des choses. Ça, il faut s'en rendre compte. On a moyen d'intervenir, on a moyen de démêler des situations. On a encore cette forme de respect, hein, que dans la classe politique, le maire reste un élu respecté et les gens n'hésitent pas à se tourner vers lui pour justement trouver des solutions. Donc ce pouvoir, on l'a. C'est un pouvoir, je dirais, qui est un pouvoir quasiment moral. Hein, c'est-à-dire que les gens écoutent le maire. Voilà, et ils ont tendance, effectivement. Après, dire que c'est un homme de pouvoir, je trouve que c'est un peu abusif. Parce que si on veut être homme de pouvoir, je pense que bon, le rôle du maire, c'est au contraire d'aider, vous savez, le pouvoir en apportant au quotidien son
avec
aide.
Avec beaucoup d'humilité,
gens.
Finalement.
Voilà, il faut être disponible. La disponibilité et le pouvoir, ça peut être antagoniste par moment. Et il n'y a pas de petits problèmes, il faut savoir se rendre disponible. Et après, on a des devoirs, ça c'est très clair. Donc ces devoirs, c'est d'équité, hein, c'est-à-dire de gérer les situations avec ce souci d'équité permanente.
Dans l'activité du maire, quel est le côté le plus agréable ? Les mariages, les inaugurations ?
Moi, j'ai une permanence. Je trouve que c'est un des points qui me plaît le plus, hein, même si c'est des problèmes. Mariage, inauguration, c'est des moments festifs. J'apprécie être présent, mais dans ma mission de maire, je peux pas dire que c'est forcément la mission essentielle. Hein, c'est avant tout le quotidien, j'ai envie de dire, qui me paraît le plus intéressant.
L'aspect le moins agréable, les contraintes.
Oh, ce qui m'a peut-être le plus heurté, j'ai envie de dire, c'est bientôt 12 mois de mandat, c'est d'annoncer le décès d'une personne à des parents. Voilà.
Je comprends. Avec le conseil municipal, c'est un travail d'équipe, vous l'avez dit, qui se fait. Quelle est la place et le rôle des femmes dans cette équipe municipale ?
Alors, c'est une très bonne question, parce que, évidemment, là, il y a une parité, hein, donc... Donc moi j'ai trois adjointes qui sont très impliquées. Je trouve qu'elles apportent énormément. Je trouve qu'elles sont force de proposition. Elles sont pas du tout en retrait par rapport aux hommes. Et c'était l'image que je m'en faisais. Ce sont des gens qui ont des convictions, des personnes qui sont engagées. Elles ont pris complètement leur marque par rapport à leur fonction. Et c'est très appréciable, hein, vraiment.
Le maire au conseil municipal est-il un modérateur, un animateur, un conciliateur, un moteur?
Un peu de tout cela, c'est-à-dire que le maire il doit quand même avoir la force de ses convictions lorsqu'il présente un dossier. On peut pas le présenter de façon terne, on le présente parce qu'on adhère à un dossier, on pense qu'il est d'intérêt pour le conseil municipal. Après, le maire, il est là pour essayer de permettre une expression la plus large possible. Il faut du débat, il faut un temps de débat. Même si on a une opposition, on se doit de débattre, hein, d'échanger. Je pense pas à la force d'un vote à travers une majorité. Je pense plutôt au consensus et à la recherche de consensus et au débat républicain.
Alors Hervé Lefebvre, je vais vous confier une information qui va sûrement vous faire plaisir. Selon un sondage Paris Match Sud Radio, 75% des personnes interrogées se disent satisfaites des élus municipaux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça vous surprend ?
C'est très bien, parce que je pense qu'en politique actuellement il y a beaucoup d'interrogations, et je pense que si vraiment l'élu de proximité n'était plus apprécié, ça serait quand même très grave. Je pense que c'est vraiment le dernier rempart pour restaurer une confiance entre nos citoyens et la politique de façon générale.
Eh bien, c'est sur cette note, pardon, sympathique, que nous allons écouter les notes de Bruce Springsteen, c'est ça ?
We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card.
Dernière ligne droite de l'émission Vue des Coteaux, nous retrouvons Pierre Escoursac et son invité du jour.
Eh bien oui Patrick, vous écoutez Radio Coteaux sur 104.5 et 97.7 dans cette émission spéciale consacrée au nouveau maire un an après. Nous sommes donc en compagnie du maire de Saint-Matan, Hervé Lefebvre. Alors, nous avons beaucoup parlé de travail, action, réalisation, projet. Et si on se détendait un peu tout en continuant à bavarder. Alors, monsieur le maire, il y a quand même une vie à côté de la mairie. J'aimerais que vous nous disiez quels sont vos loisirs, vos hobbies, vos passions en dehors de la vie publique. Je ne sais pas, moi, la lecture, la musique, le cinéma.
Alors,
les voyages.
Je lis, je suis un amateur d'histoire, en fait. J'adore l'histoire, donc je lis des ouvrages, enfin, non pas des romans, mais des ouvrages qui rapportent des faits historiques. Donc, sur différentes périodes, j'aime bien la période, on va dire, républicaine, hein, notre histoire de France. Donc, bon, puis la période plus trouble aussi de la Seconde Guerre mondiale, l'après-guerre. Donc je passe beaucoup de temps à lire, je lis tous les jours, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Après les voyages, bon, c'était quelque chose que je pratiquais avant, maintenant c'est beaucoup plus.
Vous avez arrêté. Beaucoup voyagé.
J'ai beaucoup voyagé sur le plan professionnel, sur le plan personnel aussi. J'ai été dans des pays de culture très différentes, États-Unis, Inde, Afrique du Sud.
Ça sert après à mieux apprécier les choses au plus près.
Je pense que ça développe ce sens de la communication, de la tolérance. On est sur des cultures, des schémas culturels tellement variés entre le Japon, l'Inde, l'Afrique du Sud. Donc il faut s'adapter et ça peut vraiment aider. Et après, bon, je me suis beaucoup investi pendant pas mal de temps dans le judo. Donc que j'ai pratiqué moi-même.
Ceinture.
Je suis ceinture noire de judo et mes enfants aussi, hein, sauf ma dernière fille qui n'a pas encore. Et à travers le club de l'Île Jourdain, qui est un club très dynamique, qui a une équipe fille en première division, il n'y en a pas beaucoup dans le Gers, hein, donc ça fait vraiment partie de l'élite. Et j'ai eu l'occasion de participer à l'organisation, je suis allé au tournoi de Paris, au championnat du monde, donc je me suis investi également sur le plan des activités fédérales dans ce type de manifestation, voilà.
Vous allez au cinéma ce matin, au théâtre?
Alors, on a eu une chance d'avoir vraiment, effectivement, un espace culturel très
superbe,
très riche. Je vais plus souvent au cinéma qu'au théâtre. Je devrais essayer d'aller plus souvent au théâtre, mais on a un festival de théâtre très intéressant l'été, hein, Scène en vie, où j'ai assisté à beaucoup de représentations. Et c'est vrai que tout au long de l'année, on a le Grain à Moudre aussi qui anime cette salle de spectacle. Et il faudrait que je trouve un peu plus de disponibilité, mais c'est pas toujours très simple.
Plus largement, Gérard Lefebvre, Hervé Lefebvre, si on regarde un peu autour de nous, dans la vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend pessimiste ?
Alors moi, ce qui me rend peut-être pessimiste, c'est la solitude. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Donc je pense que le lien social, c'est plus que jamais une nécessité. La crise économique aussi, je trouve que c'est devenu une habitude de dire qu'elle y est. Donc du coup, on s'en contente, alors que je pense que ça peut impacter vraiment beaucoup de personnes, aussi bien en termes d'emploi que vraiment les employeurs. Donc il y a sur lequel on a peu d'emprise en tant qu'élu. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui m'interpellent, hein, m'inquiètent et m'interpellent. Oui.
À l'inverse, qu'est-ce qui vous rend optimiste ?
Alors ce qui me rend optimiste, c'est déjà qu'on vit dans un département magnifique, qu'on a cette agriculture active, qu'on a des paysages extraordinaires, qu'on a cette convivialité, cet accueil, cette chance d'être au soleil l'essentiel de l'année, et puis également cette envie d'avancer qui caractérise bien les Gersois, qui ont envie de toujours d'avancer.
Du monde d'aujourd'hui, vous diriez qu'il est imprévisible, qu'il est fou ou qu'il est passionnant?
Alors je crois que tout va beaucoup plus vite. À travers les médias, hein, on le voit, ce qui se passe au Moyen-Orient, on le sait dans 2 heures plus tard. Donc je pense qu'on a un flux d'informations beaucoup plus important qu'il y a un demi-siècle. Après, il faut être capable de suivre, il faut être capable de décoder. Donc il y a un côté passionnant pour ceux qui s'intéressent à l'actualité nationale ou internationale. Par contre, je pense qu'il y a un côté parfois très désorientant pour les gens qui ont moins de disponibilité pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 50 ans. Ça va beaucoup trop vite, beaucoup plus vite.
Dans l'accélération du temps.
Oui.
Hervé Lefebvre, quelles sont les 2 ou 3 valeurs humaines auxquelles vous tenez le plus ?
Alors, je suis très attaché, à l'honnêteté. Je pense qu'il faut être honnête. C'est la première qualité, à mon avis, pour un élu. C'est la probité, l'honnêteté. Le courage, c'est important. En tant qu'élu, il y a des situations où il faut faire preuve de courage. Puis même de façon générale, hein, c'est une qualité. Et puis après, je dirais quand même la tolérance. Je pense qu'on en a plus que jamais besoin.
Ce moment,
le sectarisme,
oui,
nous mènera dans le mur. La tolérance nous rapprochera tous.
Liberté de pensée.
Liberté de pensée, liberté d'expression. Tolérance par rapport à... Alors tolérance, lorsque je dis tolérance, c'est par rapport à nos valeurs républicaines, hein, on est bien d'accord.
Bien sûr.
Tout n'est pas tolérable.
Bien sûr.
Voilà.
Eh bien, avant de conclure et avant de passer au questionnaire de Proust traditionnel qui nous est proposé par Patrick, je crois qu'on va écouter... Vous avez choisi, pour conclure, Hervé Lefebvre...
Jeanne Birkin.
Jeanne Birkin, mais oui...
Septembre, au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour pas toucher dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, une à une des gouttes d'eau me dégouline dans le dos, pas toujours dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ça ne changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ou la gadoue, la gadoue. Il fait un temps abominable. Heureusement qu'il y a sur l'imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer des amoureux transis et patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sur cette rythme d'amour et l'eau. En marche, les essuie-glaces. Et rentrant à Paris, l'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon. Et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ou la gadoue, la gadoue. Ou la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ou la gadoue, la gadoue. We'll be right back. L'Agadou.
L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon, nous recommande Jane Birkin. Mais pourquoi pas Samatan, hein, Hervé Lefebvre, hein.
C'est là que nous irons. Venir. C'est là où il faut venir.
Bien, mais on en arrive là. Alors là, Patrick, au tournant de cette émission.
Oui, le point final culminant.
Le sommet.
Le sommet. Non, le sommet, c'est après.
C'est après.
Monsieur Lefebvre.
Un questionnaire de Proust.
Voilà,
on va le proposer comme nous le proposons à tous les invités
bien,
de Vue des Coteaux.
10 questions. Aucune piège. Quel est votre mot préféré et votre mot détesté de la langue française?
Alors, le mot préféré, je dirais, c'est village. Hein. J'y vis, spontanément, je dirais ça. Et mon mot détesté, je dirais que c'est... sectarisme, enfin, mais là c'est politique, hein, je réponds avec ma sensibilité.
Alors, deuxième question, la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
Alors, par mon métier, j'ai beaucoup soigné de chiens, et à la limite, ça me gênerait pas un jour, sous réserve trouver de bons vétérinaires, d'être un chien.
Votre héros ou homme célèbre préféré?
Alors, homme célèbre préféré. Alors, j'aime bien la partie de la Révolution française. J'aime assez bien Danton.
Bon, on est dans notre région, donc le plat de la cuisine française que vous préférez?
Ça, c'est le foie gras, ouais. aucune ambiguïté.
On en a bien parlé pendant l'émission. Le son, le bruit que vous aimez?
Alors, j'aime bien, j'ai envie de dire, le son des cloches. Je trouve que ça rythme la vie, ça incarne les villages aussi. Il y a quelque chose à la fois du passé, du présent. Ça me plaît bien, oui.
Qu'emmèneriez-vous sur une île déserte?
Oh, une radio.
Merci.
Et pas n'importe laquelle.
Pas n'importe laquelle, évidemment, une radio locale.
Lève tôt ou couche tard?
Alors, je dors peu, donc généralement je me couche. Très souvent, je fais des mails. Les gens qui travaillent avec moi le savent, entre 11h et 1h du matin. Et je me réveille vers entre 6h30 et 7h. Mais je me couche généralement plus tard que je me lève tôt. Voilà.
Votre juron préféré?
Compliqué. Hein. Je sais pas sur les antennes.
On peut tout dire.
J'ai un joker.
On peut faire bip.
Joker.
Donc il en a plus.
Il en a énormément. Il en a tout un chapelet. Quelle est votre devise, si vous en avez une?
Ma devise, c'est peut-être aide-toi et Dieu t'aidera.
Ben, puisque vous parlez de Dieu, s'il existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort?
J'ai envie de dire... j'aurais envie de dire qu'il me pardonne toutes mes erreurs. Je gagnerai du temps.
Pas mal. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et pour conclure, Hervé Lefebvre, la question. Alors là, la question ritualisée par notre animateur César et à laquelle aucun de nos invités n'échappe. Hervé Lefebvre, qu'est-ce qui vous passe par la tête en ce moment?
Alors, ce qui me passe par la tête, c'est que je viens d'assister à ma première émission radio. Donc, je trouve que c'est un moment un peu magique parce que j'écoute la radio. Hein, c'est vraiment mon média préféré, on va dire. Je n'ai pas de télé, hein, j'écoute la radio. Et je trouve que d'être de l'autre côté, on comprend beaucoup mieux les choses. Hein, ça permet de mieux comprendre ce métier que vous faites d'ailleurs, hein, de journaliste. Et puis ça. C'est un outil merveilleux, voilà. Donc pour moi, c'est une première expérience très positive.
Eh bien, merci. Et puis, vous pensez peut-être aussi à l'actualité de Saint-Martin, avec la foire au matériel agricole de ce week-end.
Évidemment, hein, évidemment.
Et donc, la 36e semaine verte qui s'annonce du 14 au 21 mars.
Exactement. Et venez nombreux. C'est vraiment un moment privilégié avec des bénévoles derrière qui travaillent à nouveau. Je remercie évidemment Alexandre Duval et Josette Roudier, président d'AgriExpo, et Josette Roudier, la présidente du Foyer Rural.
Josette Roudier que nous avions à l'antenne hier ou avant-hier. Hein,
voilà, qui s'investissent beaucoup. Merci beaucoup en tout cas.
Merci Hervé Lefèvre. Merci beaucoup pour cette première. Vous reviendrez.
Avec plaisir.
Au revoir.